Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer le thème de la prière. C'est également aujourd'hui, eh bien, la fête de Sainte Marguerite Marie à la Coque, la grande mystique du Sacré-Cœur. Et par cette évocation, par cette fête, eh bien, c'est l'amour divin qui est vraiment célébré. C'est le grand message qu'elle était chargée d'apporter au monde. Ce Dieu, eh bien, qui était de toute éternité, qui a créé toute chose et tout être, a décidé de venir parmi nous, de s'incarner, de devenir l'un d'entre nous pour nous montrer, pour montrer à sa créature, eh bien, qu'il n'est pas étranger à ce qu'elle vit. Il n'est pas étranger, désormais qu'il s'est incarné, à ce que nous sommes, à notre limitation, au tragique aussi de notre existence, mais aussi à toutes ces petites joies. Il s'est tout consacré pour les ordonner au salut. Et le Verbe éternel de Bethléem, ce petit enfant dans la crèche, est mort sur une croix pour nous montrer, eh bien, tout l'amour qu'il a pour nous. Pour nous montrer que s'il ne nous dispense pas du combat spirituel de cette vie, il le partage avec nous. Vous voyez, c'est contrairement aux monarques antiques ou autres qui laissaient les gladiateurs combattre pour eux, pour leur distraction dans l'arène, eh bien Dieu n'agit pas ainsi. Dieu n'est pas cet ingénieur indifférent qui a mis au point ses créatures et qui se distrait comme nous, on regarde des films à la télévision. La prière, eh bien, c'est notre devoir, c'est le chemin de l'amour. C'est pour rejoindre ce Verbe qui est mort sur une croix, ce Christ merveilleux, de beauté et de délicatesse. Pour le rejoindre, eh bien, il faut prier. C'est le thème de ce dimanche. Prier sans se fatiguer. Prier, en tout cas, réussir, malgré la fatigue, eh bien, à maintenir cet élan, cette attention amoureuse à Dieu tout au long de notre vie. Pour achever l'introduction, je dirais, vous avez remarqué que la lampe du Saint-Sacrement, la petite lampe rouge, là, a disparu. En fait, elle a été volée cet après-midi. Hop, envolée, la lampe, bon, je la remplacerai. Mais ça, la leçon que ça m'inspire, c'est que les hommes passent leur temps. Vous voyez, la lampe du Saint-Sacrement, c'est pour manifester la présence réelle, pour dire, ben, il est là. Eh bien, c'est cette présence et les signes de cette présence que les hommes continuent interminablement à combattre. Personne ne peut combattre Dieu. Dieu est présent partout. Il accompagne chaque homme, même les plus terribles, les plus infidèles. Il est toujours là pour voir, pour conseiller, pour essayer de tirer du bien, même lorsqu'il n'y a que du mal. Mais les signes de sa présence, eh bien, les hommes les combattent avec un acharnement inimaginable. Alors la petite lampe du Saint-Sacrement, c'est aussi ça. C'est cette présence de Dieu qui est là, dans cette chapelle, eh bien, cesse d'être manifestée. Moïse est l'image du pasteur véritable. C'est à l'image du Christ, il préfigurait le Christ vraiment. Et le mystère de la vocation du pasteur, c'est pas d'être un gestionnaire, pas d'être un coordinateur. Ça ne se réduit pas à sa sainteté personnelle. Vous voyez, les pasteurs dont l'Église a besoin sur les conseils de saint Paul et de tous les apôtres, c'est quelqu'un qui, à l'instar de Moïse, eh bien, reçoit l'ordre de Dieu pour transmettre les ordres de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui transmet les ordres qu'il reçoit. Et les ordres qu'il reçoit, eh bien, ils sont ordonnés au salut, ils sont ordonnés à la foi. C'est le grand mystère de la vocation du pasteur. On aurait pu croire, pourquoi pas, en poussant très loin, puisque Dieu maintenant, avec la nouvelle alliance, se manifeste d'une manière individuelle, avant de se manifester d'une manière collective. Dans l'Ancien Testament, c'était l'inverse, il se manifestait de façon collective, au peuple, par l'intermédiaire d'un seul. Aujourd'hui, eh bien, il se manifeste à travers chacun d'entre nous. Pourtant, Jésus a conservé l'Église. Et l'Église, avec ses pasteurs, avec son clergé, eh bien, demeure quelque chose d'essentiel à la présence de Dieu en tant que signe de la présence de Dieu dans le monde, comme une lumière qui signale la présence du Saint-Sacrement. Et le pasteur, il y a quelque chose de mystérieux dans sa vocation. Il ne suffit pas qu'il soit un grand saint. Alors si c'est mieux qu'il soit saint plutôt que pécheur, ça va de soi. Mais ça ne suffirait pas à faire de lui un pasteur s'il n'y avait quelque chose de supplémentaire. Il prie pour les autres, il les maintient en état de combat spirituel et il obtient de Dieu finalement eh bien, la victoire et de chacun et de tous, comme contre cette bataille contre les Amalécites. Le pasteur, eh bien, ce n'est pas un surhomme. À l'instar de Moïse, il a besoin de collaborateurs qui l'aident dans cette prière pour le corps qu'est l'Église. Une prière pour le peuple qui est placée sous sa direction, c'est, vous voyez, ça nous rapporte aussi, ça nous amène au destin de l'Église. Elle dépend de la qualité de ses pasteurs. C'est mystérieux. Elle ne dépend pas seulement de la qualité de ses membres, de leur sainteté, de leur amour qu'ils partagent avec le Seigneur. Elle dépend mystérieusement eh bien, de la qualité des pasteurs et du fait que les pasteurs soient comme les apôtres, des intimes du Christ et qu'ils travaillent eh bien, comme les apôtres à réaliser l'œuvre du Maître dans le monde. Et c'est ça la grandeur de l'Église en tant que sous l'angle des pasteurs, quoi. Alors, c'est vrai que le gestionnaire fait pâle figure à côté de ça. Le communicant fait pâle figure à côté de ça. L'érudit fait pâle figure à côté de ça. Il faut avoir un cœur qui rappelle aux chrétiens la nécessité du combat dans lequel ils sont engagés, la valeur de ce combat, et surtout qu'ils ne se fatiguent pas eux aussi de ce combat, mais qu'ils continuent de garder eh bien, cette foi intacte. La bataille religieuse que nous décrit le texte de l'Exode est symbolique, c'est la bataille de la foi contre l'idolâtrie du monde. C'est la révélation du Christ, voyez, qui est la seule vérité. C'est ce que nous devons vraiment garder. Et c'est la vérité sur le monde, c'est la vérité pour chacun d'entre nous, pour notre destin personnel. Toute autre doctrine de salut est fausse. Il n'y a pas d'autre chemin que celui que le Christ nous a tracé. Il n'y a pas d'autre porte du royaume que celle qu'il est lui-même en personne. Jésus est la vérité ultime. Et c'est ce grand combat auquel nous sommes invités, à lutter contre tous ceux qui contestent cette vérité, qui veulent la détruire, l'étouffer, la rendre invisible. Il y a cet effort que le texte montre, un effort nécessaire pour chacun, à la fois pour le combattant sur le champ de bataille, parce que lui, ben, il doit combattre et jusqu'à la fin. Et puis à la fois pour le pasteur, pour le chef, comme Moïse, eh bien, qui gardait les bras toujours levés, ce n'est pas quelque chose de si facile. C'est un symbole de la prière. Vous savez, les pasteurs, ils étaient représentés comme ça dans l'Antiquité, le bon pasteur. On le voyait au milieu de son troupeau, les bras écartés, avec une tunique blanche, là, comme la mienne. Et c'est un signe de prière. Mais rester comme ça toute la journée, c'est pas si facile. Alors évidemment, c'est une image. Mais nous voyons au long de notre vie combien nous devons lutter contre l'usure. L'usure sous toutes ses formes. Lutter contre des tas de mauvais conseillers qui nous assaillent sans cesse pour nous détourner du bon chemin, pour nous détourner de ce combat. Et nous devons les combattre pour rester en éveil, pour rester vivants. Alors le refus, voyez, d'adopter la révélation, le refus d'adapter la révélation du Christ aux valeurs fluctuantes du monde, c'est cela le combat que nous menons quotidiennement. Et en général, tous les chrétiens mènent ce combat-là. Alors après, il y a les circonstances qui varient selon les uns ou les autres. Mais tous, nous sommes obligés de nous jeter dans cette mêlée qui oppose la vérité à toutes les formes de mensonges possibles et imaginables. Et quand on remonte, dès qu'on commence à discuter sur les choses, sur ce qu'il faut faire en vérité, on se rend compte, eh bien, que l'amour est toujours mis en procès, que la vérité est toujours mise en procès, elle aussi. Les idéologies nous montrent continuellement ce qu'est le mensonge et ce qu'est la haine en réalité. Même lorsqu'elles prônent, et elles prônent toutes, la construction d'un monde idéal, d'un monde de paix, d'un monde d'amour fraternel. Et ils ont même la larme à l'œil, comme le crocodile quand il mange. Mais toute larme ne procède pas du cœur et il faut ce discernement pour le reconnaître. Nous, notre mission en tant que croyants, eh bien, c'est vraiment de défendre la paix, de défendre l'amour en ce monde. C'est de défendre le Christ lui-même comme s'il était ce petit enfant de Bethléem si fragile. Eh bien, en réalité, il est fort, il est la vie éternelle. Mais tout dépend de cette lutte ici-bas. Notre destin éternel en dépend. Notre destin éternel, c'est de pouvoir dire oui à l'amour, de savoir à la fin, eh bien, que notre choix du Christ a été véritablement entendu par lui. Et alors, Dieu est comme un mendiant en ce monde. Jésus propose la foi à tous, le salut à tous, il montre l'amour comme étant une chose bienfaisante. Vous voyez, aujourd'hui, là, on parle de tensions de plus en plus importantes et de guerres, etc. Mais la paix est un trésor tellement agréable, on ne devrait pas penser à autre chose. Qu'est-ce qui dénature les cœurs pour être toujours en litige, toujours être dans l'affrontement, dans la haine, dans la frustration, dans la violence sous toutes ses formes. Il y a bien quelque chose de brisé dans l'homme. Le Christ est le remède parce qu'il est amour, c'est ce que nous rappelle Marguerite Marie Alacoque.